propos sur la clinique. Entretien entre Hélène Chéniaud et Joséphine Norapuel dans Soigner la folie, une vie au service de la clinique. Paru en 2011 chez Campagne Première. Troisième partie, de la page 189 à 228. Lue par Julien Béret, Agathe Boulanger, Laurent Bouzanquet, Muriel Bûcher, Anna Carlier, Sarah Chaumette, Sybille Chevreuse, Cécile Drovnec, Lise Guignard, Jean-Louis Giovannoni, Pierre Finkelstein, Anne Greenfeld, Karine Landrin, Gaëlle Marais, Léa Monnier, Paola Pelagali, Élodie Royer, Graziella Suzin et Camille Zuber.
Les équipes, le pouvoir et les soins.
Quand on vous parlait d'équipes soudées, vous répondiez que c'était la pire des choses qui pouvait arriver à des soignants en psychiatrie.
Écoutez, est-ce que vous avez envie, vous, tant que vous êtes vivante, d'être soudée? Si je faisais ces réflexions presque systématiquement à propos d'équipes, c'est parce que je prenais les devants à l'encontre d'une position défensive et presque, je dirais, défensivement agressive que je connaissais bien et qui s'exprimait souvent par la mise en avant de l'équipe en tant qu'existante et soudée. L'équipe en tant que susceptible d'être volontaire et responsable. Alors, est-ce que par là je voulais nier la notion d'équipe, j'allais dire l'existence de l'équipe, disons la notion d'équipe? D'abord, il ne m'appartient pas de nier une notion qui existe et dont je ne me trouve pas être l'inventeur. Elle existe depuis bien avant ma naissance. Par conséquent, je dois admettre que cette notion, ce concept existe. Maintenant, à distance, peut-être ai-je conquis une certaine sérénité à cet égard parce que je ne suis plus confrontée à ces phénomènes prétendument d'équipe auxquels j'étais confrontée tous les jours, y compris quand je n'étais pas au travail, car en fait je restais médecin-chef responsable, relationné avec autrui, même en vacances, où je recevais des nouvelles de mon service. Mes remplaçants me téléphonaient rarement et uniquement quand on avait le sentiment que mon nom, ma responsabilité serait à mes yeux en particulier engagée, et on avait la courtoisie de le faire. Et parfois, je percevais quelque chose qui ressemblait à une petite sonnette d'alarme concernant une pression dont il fallait même à grande distance faire l'évaluation en se disant « Est-on en train de faire pression sur moi à travers mon absence ou est-on en train de faire pression sur la fonction dont je suis investi en l'adressant à celui qui me remplace ?» ou en l'adressant à cette fonction, et c'est celui qui est sur place qui l'aperçoit et me la transmet. Enfin, c'est pour dire que pour avoir ce type de sérénité dans ce genre de problème, il faut avoir décroché depuis longtemps. Tout en me disant que j'étais en train de penser quelque chose d'un peu contradictoire, car j'ai en tête un travail que je mène actuellement avec deux équipes dans deux hôpitaux différents, et ça reste actuel, et ça va me permettre de m'arrêter à différents niveaux de cette notion, c'est-à-dire le niveau formel, qui correspond au langage, aux conversations, je dirais socio-administratif, organisationnel. J'ai toujours envie de dire cadastral, parce que je vois le territoire de notre action, le territoire topologique et le territoire géographique, et ce mot cadastral me revient souvent. On sait très bien ce qu'il en est de cette notion socio-administrative, à savoir l'équipe qui connaît une unité de temps, une unité de lieu, une unité de siège et qui est censée se partager un travail qui correspond à un certain type d'insertion et un certain type de responsabilité, ce qui laisse encore dans l'ombre, dans une ombre à peine éclairée par-ci par-là, par d'autres précisions, par exemple, le nom d'un chef déclaré ou reconnu, ou au contraire, qu'il n'y a pas de chef. Pour que le socio-administratif soit explicite, il faut qu'il soit très précis sur les données de départ. Alors, être précis, pourquoi? Parce que ça débouche immédiatement sur deux ordres de réalité, sur la responsabilité et sur le pouvoir. Et aussi, Est-ce qu'on peut parler de représentativité?
Les fonctions du médecin-chef de service, promouvoir des structures soignantes de responsabilité.
Dans le papier que j'avais fait, un de ces caractères dont j'affectais de m'honorer, c'était qu'il était rasoir, vétilleux apparemment. J'avais parlé des mini ou micro-équipes, mais là déjà je ne parlais pas du type socio-administratif classique et lourd, je parlais de ce qui peut s'inventer quand on est lancé dans un travail de secteur et qu'on met en place une équipe, qu'il faut bien regarder comme un groupe qu'on met en place et pas simplement comme un groupe correspondant à un cadre horaire. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'unité de siège et non pas seulement d'unité de lieu. Pour dire unité topologique, si vous voulez. Si c'est une équipe qui fonctionne essentiellement dans les rues et les domiciles du secteur et qui ne vient que très épisodiquement à l'hôpital, il y a des chances qu'elle soit caractérisée par un petit nombre de personnes et aussi par le fait que ces personnes ne se trouveront pas au même lieu au même moment. La conséquence est que les soignants sont organisés autour d'un malade et non pas autour d'une fonction comme être de médicaments, ou être de course ou de surveillance de cours, comme à l'hôpital. Pourquoi a-t-on toujours cette attitude régressive à l'égard d'une organisation qui devrait être non seulement périmée, mais oubliée, jetée? C'est peut-être parce que on n'est pas suffisamment clair avec la notion de responsabilité. Soit qu'on ne l'a pas assez définie, comment s'exerce la responsabilité de chacun et comment il est obligatoire qu'il l'exerce, ou bien alors on l'aperçoit et elle fait peur, et on n'a pas très envie de l'apercevoir et on s'arrange pour se défiler. Qu'est-ce qu'un consensus, sinon qu'on s'arrange pour ne pas en parler? C'est une de ses caractéristiques, c'est un accord tacite. Qui sait que cet accord tacite existe? Et qui est habilité à l'énoncer sans se tromper? C'est bien douteux tout ça, hein, bien vague. Il existe des références qu'on entend énoncer tout d'un coup, ou un consensus énoncé par personne. C'est bien possible. Je veux bien qu'on appelle ça un consensus. Ce serait en rapport à ce moment-là avec un niveau d'aspiration ou d'ambition ou de mise en commun de, je ne peux pas dire désir, des mouvements désirants, ce serait plutôt ce qui dénonce le consensus. Ce serait une mise en commun d'un mouvement non désirant. La décision, est une chose capitale sur le plan institutionnel, sur le plan de la vie aussi, sur le plan de l'analyse institutionnelle telle que vous la sollicitiez tout à l'heure. C'est une chose capitale et absolument inséparable de la notion de responsabilité si on noie l'une et l'autre dans une conception imaginaire de l'équipe. Faut-il confondre la notion de pouvoir d'une équipe et la notion de pression? Une équipe a-t-elle un pouvoir? Et si elle l'a, est-elle au fait de ce pouvoir? Est-ce que les membres de l'équipe sont susceptibles d'en avoir fait ou d'en faire chaque fois que c'est nécessaire une claire analyse? Et est-ce que ce pouvoir est reconnu non seulement par eux, mais par tous les autres? Je citais souvent, quand j'étais sollicitée sur ce point-là, l'exemple du parc automobile et du permis de conduire de mon ami Uri à Courcheverny. Il ne suffit pas que le médecin ait donné son autorisation ou sa prescription pour qu'un malade puisse conduire un véhicule. Les gens responsables du garage, constitués en équipe autonome et responsable de la sécurité, doivent examiner la candidature sous l'angle qui est le leur pour que cela se fasse. Je cite ça brièvement, je ne restitue peut-être pas tous les détails, mais l'esprit du fonctionnement de ces deux registres bien distincts. C'est un exemple bien clair, mais il est difficile de l'être en ce qui concerne une équipe et le reste du collectif soignant. Une équipe et son pouvoir et sa fonction. Le fait qu'elles doivent être articulées et reconnaître la responsabilité du chef du collectif, les décisions et le pouvoir, tout cela doit être bien clair si cette équipe veut que soit vivable son propre pouvoir et sa propre responsabilité.
Je pensais à ces situations ou au sujet d'un malade posant un problème de thérapeutique, de conduite à tenir quotidienne, de contention, de transfert ou de sortie, pouvait se mobiliser avec une équipe ou mobiliser quelque chose que j'appellerais pouvoir de résistance passive ou négatif du pouvoir qui pervertit l'action.
J'ai entendu cette partie de votre question et je pense bien y revenir un peu plus loin et à propos de ce que vous venez de dire justement. Les conditions de surgissement des phénomènes que vous venez de détailler sont en rapport avec ce dont je parlais. Si les conditions d'une convention de base de fonctionnement n'existent pas, et on pourrait presque dire que c'est le contraire d'un consensus, mais qu'il y aurait illusion à s'imaginer qu'avec un consensus, on va s'en sortir. Il faut pouvoir se parler ouvertement de la manière dont on conçoit ce qu'on se propose de faire ou de promouvoir ensemble. Une des équipes avec laquelle je travaille actuellement, en présence de son médecin-chef, fonctionne branchée directement sur un petit nombre de malades. Elle fait savoir auprès d'un jeune médecin nouvellement arrivé qu'elle serait plus à l'aise si le médecin-chef n'était pas là. On a toujours discuté la présence des médecins-chefs. Le confrère me l'a répété en me disant que l'équipe contestait la présence du médecin-chef. Je lui ai dit « Contester quoi ?» Il me dit « Il serait peut-être plus à l'aise. » Ce à quoi je lui ai dit « Plus à l'aise, pourquoi ? Pour parler de quoi ?» Et il m'a dit « Bah oui, telle est la question. »
Expliciter, dédramatiser sans minimiser.
Le lien hiérarchique exerce bien une espèce de présence qui se double de projections imaginaires sur ce lien et sur cette situation. En rapport avec votre dernière question, il faut non seulement que les termes de la convention de départ soient bien définis, mais sans cesse repris ensemble, redéfinis, soit dans un mouvement qui aboutisse à un accord formulé, soit dans un désaccord qu'on énonce et avec lequel il faut faire avec, comme on dit. Et c'est là alors qu'intervient ce que j'appellerais le niveau de fonctionnement psychique du collectif. Si ce niveau est essentiellement assimilable à celui du fonctionnement amour-haine, ça ne va pas loin. Ou plutôt, ça peut aller très loin dans le sens de la pression, de tout ce qui est perverti, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut qu'on parvienne au niveau au-dessus. Je crois qu'on ne peut pas se soustraire à ça. Et on le perçoit dans les réunions, c'est là où il m'arrive de dire « descendons vers les pâquerettes » plutôt que de rester dans l'amour-haine, allons jusqu'aux pâquerettes ensemble. En ce qui concerne l'usage sauvage et cruel qu'on peut faire des malades dans ces cas-là, on peut dire que là aussi, c'est bien plus précisément le signe qu'on n'a pas suffisamment défini la convention de soins et de responsabilité à l'égard du malade. La convention thérapeutique. Ça n'empêche pas d'exister, comme dirait l'autre. Ça n'empêche pas le sadomasochisme d'exister, toutes les passions d'exister, même si tout cela est bien défini. On n'en est pas moins homme ou femme. Tout n'est pas résolu par une objectivation des problèmes. En ce qui concerne les vendettas, il y a une question d'atmosphère et du travail de l'atmosphère, du travail en commun, en particulier la nécessité constante de dédramatiser et de ramener au minimum de vagues affaires autour de ces histoires-là plutôt que de les grossir. Si on laisse percevoir une réaction parce qu'on l'entretient soi-même, une réaction de scandale, de protestation anxieuse ou haineuse à l'égard de ce dont on est témoin qu'on est en train d'utiliser le malade, ça ne peut qu'aggraver les choses. Évidemment, il y a tout un travail à faire là qui est de dédramatiser, car la dramatisation de mouvements de ce genre est extrêmement pernicieuse pour les malades concernés. Ça les atteint de toute façon, et c'est pernicieux pour les soignants. Cette complication du problème, le travail à faire n'est pas de le minimiser, mais de le simplifier, le non-dramatiser. Sur le plan de l'inconscient, à travers les soignants, ça va certainement être pernicieux pour les malades, et les malades psychotiques en particulier. Car avec leur suggestibilité, ils sont très sensibles à la simplification ou à la complication, au grossissement des choses. Sur le plan institutionnel, c'est important que les gens qui travaillent ensemble le sachent et en fassent une notion discutée entre eux et mise en commun pour être susceptible de la reconnaître chacun pour soi, mais aussi dans certains cas, sollicité par le voisin dans une discussion, dans une réunion, dans une équipe. Ça, c'est le fonctionnement d'équipe que je reconnais comme tel. Cet élément d'analyse qui doit être fait en commun et qui est essentiel, il doit être suffisamment clair, explicité et explicite pour qu'en aucune façon le fait de simplifier et de ne pas dramatiser puisse être confondu avec le fait de nier ou de négliger ou de laisser aller. Ce n'est pas du tout la même chose et ça, c'est encore un obstacle, un écueil. Si ce n'est pas explicite, cela risque d'être entendu comme un laisser-faire, un abandon. Pour les responsables de collectifs soignants, même s'ils n'ont pas formulé une décision dans un certain nombre de cas, ils sont quand même décisionnels en puissance et ils sont donc, à mon avis, interpellés intérieurement au niveau de leur vertu, à un niveau moral. Sont-ils là non seulement présents, mais capables de fermeté ? Et aussi constamment capables de miséricorde. Est-ce qu'ils sont capables de cela? Peut-on compter là-dessus? C'est essentiel, car c'est en rapport direct avec la confiance et l'exercice de la confiance. Est-ce que je suis
dans le sujet, en plein dans le sujet. Vous pourriez aussi développer les processus de prise de décision. Car on parle beaucoup de décisionnel en le substantivant et on finit par croire que c'est une entité abstraite, quelque part dans un organigramme, ou que c'est le groupe qui a pesé ou pris une décision. Pourtant, c'est un acte de décider, et c'est aussi une énonciation.
Il faut voir de quelle façon, par exemple, le groupe sollicitera quelqu'un de décider. Ou prétendra qu'une décision peut émaner de tout un groupe et dira ensuite que l'équipe a décidé. Ne peut-il vraiment exister une décision méritant véritablement ce nom et en rapport avec la responsabilité dont le décideur est investi, qui ne soit pas pour autant ce qu'on essaie parfois par pression de lui faire porter le chapeau, en le sommant d'exercer un pouvoir, j'allais dire son pouvoir, on peut le discuter, de faire un acte de force en disant que ça c'est sa décision, alors qu'en fait, dans certains cas, ce qu'on sollicite de lui, c'est qu'il déclare exercer un pouvoir et qu'on puisse immédiatement se considérer comme opprimé, ce qui n'est pas du niveau de la décision et de la responsabilité. Ne pas passer à l'acte quand on fait tout pour vous y faire passer, cela suppose une sacrée décision, une décision de responsable.
Vivre schizophrène. Chapitre 11. La dimension pédagogique dans l'action thérapeutique.
Quand on avait évoqué la notion de statut intérieur, ça s'était terminé de ma part par une vague hypothèse sur peut-on parler que le schizophrène peut être en possession d'une statue intérieure comme tout autre ? Si tant est que tout autre, que tout le monde en ait une, ce qui restait aussi à démontrer. Et j'avais ajouté que je serais tentée de répondre positivement. Mais il y avait un os. C'était le matériel psychique externalisé du schizophrène. Que pouvait-on faire avec ça ? Et je faisais cette suggestion qu'une thérapie puisse l'aider à, j'avais osé dire, à construire sa statue intérieure. Et à mesure que j'écoutais ça, ce matin, je repensais à mon dada de l'historial, ce que construit un malade comme histoire, nous autres étant participants et témoins de son histoire supposée, non pas connue, mais supposée existante. Et je mettais en rapport ces deux idées avec l'hypothèse de travail qui consiste avec le patient à construire dans sa tête une histoire. Je crois que c'est une hypothèse formulée à peu près dans sa tête par Salomon Resnick. Alors ça me donne à penser aussi ce que j'appelle et rappelle souvent aux infirmiers sous le terme de dimension pédagogique de l'action thérapeutique. Car comment peut-on distinguer quelque chose qui concerne le psychisme et toutes les données proprement psychiatriques, et même en partie psychanalytiques, avec ce qui est de l'ordre de la pédagogie? Je suppose que les gamins de notre époque me diraient « Mais voyons, parlez donc de comportementalisme !» Moi, ce n'est pas de comportementalisme que je veux, ni ne prétends parler. Il y a une dimension pédagogique obligée dans la démarche thérapeutique à l'égard des schizophrènes. À partir du moment où nous sommes mêlés aux actes et nous nous mêlons d'agir, et nous ne pouvons pas ne pas le faire. Et de la part des infirmiers encore bien plus. Une autre veine exploitée et avancée par Azoulay dans son séminaire à Soisy-sur-Seine est celle des injonctions, des démarches volontaires et presque directives.
J'associe au terme de l'historial ce que vous disiez de la nécessité d'énonciation. On en a parlé concernant l'équipe, mais cela gagnerait à être précisé aussi par rapport à l'historial, ce qui peut être énoncé avec et pour le patient et ce qui se construit de vie vécue dans l'institution soignante et qui n'est pas énoncé. Et dans ce cas, quelle est son efficacité pour le patient, pour son inconscient et pour l'appropriation de sa vie?
C'est très intéressant la subdivision que vous proposez et commode à faire. Par exemple, il y a des limites ou bien des orientations à ce qui doit s'énoncer avec un patient du côté du patient. Ce qui me vient tout de suite à l'idée est que du côté du patient, ou lorsqu'il est en position duelle, il y aura aussi toute une partie relative à la disposition et au fonctionnement du groupe, puisque c'est l'environnement de vie, la programmation de la vie du groupe. Donc de ce côté-là, l'énoncé va nous renvoyer à l'affichage. De quelle façon sait-on? Où? Et qui? Et quand? Et pourquoi? De quelle façon apprend-on et commente-t-on les nouvelles de la vie dans le groupe? Que ce soit différentes façons spontanées ou coutumières, comme les réunions de patients, que ce soit ces techniques plus particulières de marionnettes pratiquées à la borde sous forme de gazette du soir. Tout cela, on le réfère au patient, même si les marionnettes tendent vers la partie groupe, elles touchent tous les individus présents à titre individuel. C'est une zone de transition. Mais l'autre partie, ce qu'en fait l'institution, c'est assez complexe. Car je me dis, suis-je en train de penser à ce qu'elle en fait ou à ce qu'elle fait, c'est-à-dire comment elle le fait, comment elle l'élabore, à ce que l'institution construit? Si c'est ce qu'elle élabore, ça a trait à l'investissement, à la remémoration, au transfert. Si c'est ce qu'elle construit, ça peut avoir trait à la pédagogie, à la dimension volontariste, mais être aussi une construction non seulement non dite, mais dont on ne sait pas si elle est tellement consciente. Et cette partie-là a vraiment des matériaux très difficiles à dénombrer, à désigner, à identifier. Ça comporte toutes les potentialités dans l'institution, mais aussi les relations avec les autres patients. Les autres patients dans le passé, avec lui-même dans le passé, dans les séjours antérieurs, puis avec les gens soignants, sans oublier bien sûr la sexualité. Ce n'est pas simple car il y a quand même bien dans ce domaine-là justement plus de choses faites qu'on ne le dit et qu'on ne le pensait, beaucoup de choses non dites parce qu'on les fait et qu'on a envie de les faire. Et là, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur l'énonciation, mais les affects existent.
La sexualité à l'hôpital.
Justement, La sexualité dont on parle tant quand il s'agit de la névrose, on est prié de n'en rien dire pour les patients hospitalisés. C'est un peu comme la violence, on n'en parle que lorsqu'il y a passage à l'acte ou agissement simplement, alors qu'on n'ignore pas les lourdes conséquences des médicaments, de l'isolement social et des hospitalisations de longue durée sur la vie sexuelle des personnes.
Ce « n'en rien dire » est d'une part une réaction qui n'a rien à voir ni avec l'intellect, ni la morale, et d'autre part, elle peut prétendre toucher le règlement. Elle est finalement dans un rapport tout à fait douteux avec l'éthique un peu floue des gens en place. On parle de ces cliniques dans lesquelles les interdits sexuels seraient moins rigoureusement proclamés, sinon respectés, que dans notre service public. On parle aussi des relations qualifiées d'incestueuses dans un milieu institutionnel qui aurait un fonctionnement plus cohérent, plus naturel par rapport aux réalités sexuelles des personnages. Il y a bien des difficultés, des problèmes, ce n'est ni simple ni satisfaisant la manière dont ça fonctionne. Mais en disant cela, je suis loin d'introduire une recette, ni même un souhait très précis. Quand il y a agissement, il y a surprise, il y a aveu, tout un vocabulaire. Je préfère dire réalité sexuelle, pour ne pas parler forcément des actes et d'une sexualité tellement intellectualisée et désexualisée, que finalement elle est laissée pour compte. Et tout ce que vous rappelez là, des conditions de vie des patients et du domaine des réalités sexuelles. Une fois, j'avais eu maille à partir avec l'administration de Villevra à propos d'un jeune patient, plutôt névrotique, pas très malade et pas pour très longtemps. Il était visité régulièrement par sa petite amie régulière. C'était une relation affective stable entre ces deux êtres que nul ne pouvait contester, faisant partie de sa vie connue et reconnue et qui paraissait bien compréhensible quand il s'agissait de deux êtres de 25 ans d'âge. Et puis il n'était pas abruti par les médicaments. Ses sentiments s'exprimaient quand elle venait et ils étaient chaleureux. Il faisait assez beau et ils avaient, fort heureusement pour eux, découvert un grenier, un étage d'un bâtiment peu utilisé. Il y avait une échelle, ils y étaient montés pour jouir de leur intimité. Et une fois là-haut, ils avaient retiré l'échelle pour être tranquilles. Ils ont été découverts par l'administration qui était toute disposée à en faire toute une affaire. Et je me rappelle avoir dit « Enfin, je ne comprends pas où est le problème ?» Ils avaient enlevé l'échelle. J'avais gardé pour moi tous les soucis et les inquiétudes concernant le fait qu'ils auraient pu se casser la gueule ou toute autre chose. Je n'avais absolument pas parlé de cela pour savoir ce qu'à l'avenir je ferais pour sauvegarder la sécurité physique des personnes. Mais telle que l'administration avait présenté les choses, moi je pensais que je n'avais à répondre que sur ce point-là, à savoir qu'on n'aille pas me raconter d'histoires concernant les manifestations agies, sexuelles de personnes qui n'avaient pas attenté à la pudeur. Ils ne s'étaient pas donnés en spectacle, ils n'ont pas fait ça dans la chambre. Ils avaient quitté le pavillon, ils ont pris soin de réaliser des conditions d'intimité. Cet exemple m'avait intéressé, car il est vraiment à la marge, à la frontière de ce qui concerne les interdits sexuels quand on est hospitalisé. Et puis en même temps, cette question d'une intimité signifiante, expressive, qui concerne la vie profonde des gens, les éléments fondamentaux de leur existence. C'est intéressant aussi quand on regarde plus précisément les schizophrènes et ce vocabulaire-là. Apragmatisme, stade prégénital, génitalité. Entre ces deux derniers, il y a toujours un chassé-croisé. On croit parler de la sexualité, on parle de la génitalité, même dans le vocabulaire banal. Tandis que prégénital, c'est du vocabulaire psychanalytique. Donc, si je ne me trompe, et je me trompe souvent encore à mon âge, prégénital correspond bien plus à ce que je fais du génital ou de l'avant-génital qu'à ma pratique sexuelle avant qu'elle ne soit génitale. Alors ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur les mêmes niveaux quand on parle des malades prégénitaux et de leur exercice de la génitalité. En somme, moi, je crois qu'il y a pas mal de schizophrènes qui ont un exercice de génitalité. Reste à savoir s'il est à coup sûr dans le cadre d'une vie prégénitale.
La jouissance psychique du schizophrène est-elle déléguée au corps ?
Une autre question, celle de la guérison, un peu la question de la cure des troubles, me renvoie au début de la vie de tout schizophrène. Donc à une interrogation sur ce qui peut être particulier concernant sa sexualité, sa différenciation et l'altérité. Ni l'un ni l'autre de ces deux derniers ne figurent dans les dictionnaires de psychanalyse. On parle de différenciation en parlant de sexualité et on la relie à asexualité et asexuelle pour les différencier d'érotique, ce qui n'est pas sans intérêt. L'autre jour, je pense, j'ai dû faire passer ma question de la façon suivante. J'ai dit que ce n'est pas banal, pas courant, pas normal de négliger le chapitre de la sexualité chez tout être humain. Alors le négliger chez le schizophrène, ce n'était pas acceptable. Mais il m'est venu deux fils. Sinon deux filières quand j'ai voulu penser à cela. D'une part, le fil de la jouissance et d'autre part, le fil de la sexualité dans ce qu'elle a de différenciant, de différencié et de reproductif, de fécond et qui l'implante dans l'existence humaine. Tout ce que je viens de dire là, c'est à la sexualité que ça se rapporte. La jouissance, je vais la laisser toute seule, sans rien dire de spécifique pour les schizophrènes. Et justement, ça m'est venu comme ça parce que la jouissance, elle, est très spécifique chez les schizophrènes. Je crois qu'ils en vivent beaucoup et qu'il nous est plus facile de penser qu'ils n'ont guère accès au plaisir et qu'ils ne sont peut-être pas des êtres de désir parce que tout ça est référé à notre conception du plaisir et notre conception du désir, que de remarquer leur rapport à la jouissance. Il y a encore une autre façon de ne pas y penser, c'est de les qualifier de psychotiques comme je n'aime pas le faire. Non pas qu'ils ne le soient pas, mais parce que c'est les jeter dans l'abstraction, donc les nier au fond. À partir du moment où on dit les psychotiques et la psychose en devient éloquent d'une manière tout intellectuelle pour parler de la souffrance psychotique, et on se met même à entretenir l'idée que les psychotiques vivent une souffrance épouvantable, indicible, etc. Et on va se contenter de ça. C'est là que je donne des signes d'agacement tout à fait visibles quand on m'interroge. Alors cette jouissance, j'aimerais bien savoir aussi de quoi elle est faite. Il y a bien des gens qui ont trouvé de quoi écrire tout ça, comme Paul-Claude Racamier, il y a très longtemps et même si ma mémoire me refuse ses services sans lacune, je pourrais essayer de sortir ce que j'ai lu chez lui. Mais je suis ravie que ma mémoire ait des lacunes, car c'est une façon de me laisser encore la liberté de me faire une idée personnelle de cette jouissance. Et de quoi elle est faite? J'ai des souvenirs, bien sûr, mais je veux avoir des marques de ce que me laissent les patients. La première chose que j'avais envie de dire, c'est que cette jouissance était très psychique. Bien sûr, elle a ceci, ou que ce soit, dans la mienne ou la vôtre, elle est aussi inscrite dans le corps. Mais pourquoi me hâtais-je de dire qu'elle était très psychique chez les schizophrènes? Est-ce parce que je la voyais plus psychique que corporelle? Ou bien que j'étais très embarrassée du corps des schizophrènes et ce qu'ils pouvaient en faire? Et que ça m'arrangeait bien qu'elle fût très psychique? Elle est très psychique quand même. Alors c'est aussi parce que ce qu'ils m'en donnent à comprendre ou ce qu'ils m'en donnent à comprendre et que je ne comprends pas, à percevoir vient précisément à travers le langage, à travers les mots, l'usage des mots et la manière d'en jouer. Ça, c'est irremplaçable dans la communication. Je ne dirais pas d'un malade schizophrène parce que va voir ce qu'il communique. Mais dans la communication qui est schizophrène, on ne peut pas passer à côté de ça. Ça pose même des questions quand il s'agit de schizophrène. Quand il s'agit de schizophrène, je ne dirais pas mutique, car ils ont un langage gestuel et mimique, mais peu verbaux, qui ont assez peu d'expression verbale ou une expression assez pauvre, on peut s'interroger autrement sur la manière dont cette jouissance psychique est déléguée au corps, ce qui est une hypothèse hardie car c'est peut-être tout à fait le contraire. Elle vient peut-être par le corps et ça va au psychisme, ou ça vient tout ensemble. Tout cela, c'est des images pour ces questions. J'ai beaucoup de culottes pataugées comme ça. Toujours en images et pas comme affirmation. Comment cette jouissance est déléguée au corps? Et là, il me vient un certain nombre de notions acquises ou héritées, comme la notion de partiel ou de peau, de vêtements, d'identité, différenciation de l'être à l'être, pas mâle ou femelle. Et là, on aborde évidemment la question de l'altérité. Là, on peut reposer la question de la jouissance et alors s'étonner, en ce qui concerne ce qui peut nous être communiqué de la jouissance d'un schizophrène dans le vécu de l'altérité, qu'il n'y ait pas d'expérience d'altérité originale avec les schizophrènes. Ils annulent les conditions dans lesquelles cette expérience pourrait être faite. Il faut enterrer ce que je viens d'affirmer, puisque le schizophrène est là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience, mais elle est vécue de la part du soignant avec un processus défensif, qui est un processus d'annulation du caractère schizophrénique. En fait, n'est pas dans l'altérité qui veut. Si je m'introduis dans le cadre de l'expérience d'altérité avec un schizophrène, je m'aperçois qu'en matière de jouissance, il y a vraiment des trucs étonnants, qu'il me jette à la figure, que je n'y comprends rien. Mais dans une relation névrotique, j'allais dire bêtement, y a-t-il obligatoirement partage de jouissance entre deux êtres? Mais on nous apprend à y penser les choses dans un registre bien balisé qui est de l'amour et de la passion, de l'homo ou l'hétérosexualité, etc. Quand il s'agit d'amitié, c'est encore une autre question. Elle n'a pas cours dans ce qui touche nos affects chez les savants qui nous dictent nos vocabulaires. C'est une surprise, ça, je m'étais mise à l'abri de parler d'amitié dans les sociétés savantes, de peur de voir ce terme bafoué. Et voilà que je le vois surgir à propos de la jouissance des schizophrènes. Ça doit tenir à la fois aux affects et à l'identité.
Identité et schizophrénie.
Au cours d'une émission de France Culture sur les noms propres, j'écoutais une personne de formation juridique rappeler que le nom ne nous appartenait pas, qu'il ne nous appartenait jamais, que nous le recevions toujours. Elle a examiné les différentes hypothèses, les différents cas et bien mis en évidence en effet que c'était irréductible. Le nom nous vient toujours d'ailleurs. Bien sûr, on peut jouer à dire « moi je m'appelle comme ci, comme ça, comme cela ». Mais il ne s'agit pas de ça. Et elle a dit que le fait que ça nous vienne ainsi s'oppose ou est efficace contre ce qui pourrait être de la part de l'individu un sentiment de toute puissance. Cela m'a beaucoup intéressée car la feuille, avec Jean-Louis Giovannoni, notre assistant social, on avait parlé de ces malades qui indéfiniment perdent leur carte d'identité, et en particulier d'un malade qui perdait sa carte d'identité, mais pas sa fiche d'identité interne à l'hôpital, dont il se servait d'ailleurs quand il fichait le camp pour se faire rapatrier à l'hôpital comme fou, et dont il se servait aussi pour les services que lui rend une telle fiche à l'hôpital. Ce qui met bien en évidence quand même que la fiche d'identité intra-hospitalière ne signifie pas du tout ce que signifie une carte d'identité. Et pas simplement parce qu'elle est juste utilitaire et concrète, mais parce qu'en fait, c'est une contrefaçon. Ce n'est pas un document qui manifeste que vous avez un nom qui vous a été donné et que cela signifie que vous n'êtes pas tout puissant. Et là, chez les schizophrènes, il y a un état conflictuel concernant cet aspect d'eux-mêmes, puisqu'il y a si souvent cette incapacité à conserver cette carte d'identité, et parfois même plus, des gestes de destruction à son égard.
Souvent d'ailleurs dans des moments particuliers de dépersonnalisation.
D'autant plus particulier que ces moments de crise ou de dissolution de la conscience, Il n'est pas exclu qu'il fasse immédiatement suite au moment où les schizophrènes étaient apparus plus différenciés que jamais, plus proches de la différenciation d'être à être, mais aussi de la différenciation sexuée. Pas seulement sexuelle. Et là survient cette crise de destruction. Je me rends compte qu'à la sexualité des schizophrènes, je raccroche la jouissance. Et là, maintenant, à la destruction.
Je vais vous poser une question en termes simplistes et bien tranchés. Y a-t-il une menace à être différenciée et de quelle nature est cette menace? Est-ce tellement compliqué à supporter pour le psychisme qu'on y renonce pour ne pas courir un certain danger?
Je crois que la question est très utile en effet, mais telle que vous la posez là, vous êtes en train de la faire descendre le long de la perspective névrotique, à laquelle j'ai fait allusion plusieurs fois. Car à partir du moment où on parle du danger de la solitude, de l'autonomie, de la douleur, du renoncement, être hermaphrodite, c'est être les deux à la fois. C'est chouette, c'est total, c'est une jouissance, donc il faut renoncer à tout ça. Il faut le faire par rapport à deux êtres qui ne vous ont pas demandé votre avis pour jouer ensemble et vous fabriquer. Et en plus, il faut se faire semblable à l'un d'eux. Ça, c'est la filière névrotique à grands traits.
Je pensais aussi à cette angoisse de certains psychotiques quand ils n'arrivent pas à avoir d'existence qu'en écho.
Pour fixer les idées, j'ai resitué l'altérité à ce qu'elle apporte et ce dont elle prive dans la perspective névrotique. Mais chez les schizophrènes, ce n'est pas la même chose. Vous avez introduit l'écho, ça m'a fait introduire le miroir. Ce qui m'embarrasse, c'est que je ne suis pas sûre que se pose en ces termes le problème chez un schizophrène. D'accepter ou de renoncer à l'altérité en accès direct, que le chemin fonctionne de cette manière-là, alors je me méfie. Je ne suis pas très à l'aise. On peut formuler cette hypothèse si on a le sentiment, c'est nous qui l'avons, les schizophrènes, je ne suis pas sûre qu'ils l'ont. Que le schizophrène, ça lui fait peur de se différencier et qu'il va réagir selon cette peur. Est-ce vraiment là que se joue sa terreur? Je ne peux même pas dire ça. Est-ce là que se joue la terreur en lui, que se joue la terreur sur son théâtre? Ou est-ce qu'à l'occasion de l'altérité accessible ou non accessible, de la différenciation réalisable ou non, à l'occasion de cela, ce qui se vit en lui, c'est être-être. Alors que jusqu'alors, être se réalisait au mieux à n'être pas. Donc c'est plus complexe, c'est différent. Dans la filière névrotique, c'est le problème de l'autonomie, de la solitude, etc. Ça réfère à un niveau de surface sociale, à la dépendance et à un niveau archaïque de la symbiose. Et puis ça fait un clin d'œil à l'étayage, et celui-ci, on peut encore lui cligner quand on est avec les schizophrènes, mais avec autre chose. Tandis que la question posée du côté des schizophrènes, je ne suis pas sûre que l'un des problèmes ne soit pas celui-là, le fait que ce que nous ressentons, nous, comme un achoppement tragique sur l'altérité ou la différenciation, ce ne soit pas en fait cela qui se produit et ce serait un plan secondaire, comme on parle de signes primaires et signes secondaires. Et le problème primaire serait le problème d'être, qui serait rappelé ou ravivé ou exacerbé, mais au point même d'être hémorragique psychiquement par cette sollicitation à l'altérité, à la différenciation qui constituerait vraiment quelque chose d'incompatible. Et comment ne pas vivre une catastrophe quand on est dans l'incompatibilité? Ça ne peut qu'être ainsi, un peu comme si on disait « ça y est, t'es bon, tu tiens le bon bout, tu vas savoir nager, que dis-je, tu sais nager ». Et à ce moment-là, ne se souciant pas du tout que cet être est un aérobie pur, même pas un amphibie, et qu'on lui dise « crac ». Tu seras dans l'eau sans en sortir comme un poisson. Vas-y, tu vas être comme un poisson dans l'eau, mais il n'est pas de cette espèce. Quand on s'interroge sur cette réalité, qu'on se soucie fort peu de la sexualité des schizophrènes dans l'institution soignante, il faut reconnaître qu'on est pourtant témoin de rapprochements sexuels, de la formation de nombreux couples, encore plus dans les lieux à temps partiel qu'à l'hôpital à plein temps. Et on voit ces gens vivre en couple et, dans les cas les plus tranquilles et les plus favorisés, s'installer ensemble, mener une vie de couple et réaliser là un équilibre qui n'a rien à voir avec l'équilibre dans lequel chacun d'eux vivait antérieurement, qui était souvent bien précaire et qui le devient moins. Souvent c'est l'horreur, parfois c'est monstrueux. Bien sûr, il y a des trucs monstrueux même chez les êtres névrotiques qui vivent en couple. Est-ce que pour autant l'originalité de la jouissance schizophrénique est complètement retirée de la scène, retirée du tableau? Je ne crois pas, moi. Je crois que là s'établit un mode d'être, un mode d'équilibre certainement en rapport avec la solitude humaine et avec la manière de s'en arranger en n'étant pas seul. Avec aussi la génitalité, le fonctionnement génital, avec toutes les réserves qu'on peut faire, car ce qui se passe dans le lit d'un couple schizophrène, c'est très mystérieux pour nous, et c'est sûrement très variable, comme chez tout le monde. Le barrage que je n'ai pas franchi tout à l'heure, c'était le mot amitié. Et là, quand on voit les formations en couple et l'équilibre qui change, on se pose la question de l'affection. Faut-il faire une distinction subtile entre l'affection et l'attachement ?
De la toute-puissance.
Dans la question de l'identité, vous aviez parlé de nom qui est toujours donné par autrui, mais ces schizophrènes qui se prennent pour tel ou tel personnage et qui s'attribuent des noms.
Ce qui domine, c'est qu'ils se prennent pour. C'est-à-dire que ce qui domine, c'est l'identité et pas la nomination. À mon avis, cela n'entame pas beaucoup cette conception juridique et véridique du nom qui vient toujours d'ailleurs et met ainsi une limite à notre toute-puissance. Sauf à dire que si je me prends pour tel autre, si c'est l'identité qui est en cause et non la nomination précisément, je me soustrais au domaine de la nomination et avec mon jeu sur l'identité, je joue de ma toute-puissance. C'est intéressant cet exemple, car si jouer de mon identité me renvoie au domaine effréné, à ce que j'appellerais l'enfer de la toute-puissance, il y a peut-être quelque chose à ajouter à la question des pertes de papier d'identité. On peut formuler l'hypothèse que jouant sur leur papier d'identité porteur de leur nom, ils vont se précipiter dans le domaine de l'inanimé. Dans le domaine de l'innominé, on va très vite penser à ce qu'on pense d'habitude. On va les voir en peine de se délimiter corporellement, parler de leur indifférenciation, parler de choses archi-connues. Mais si on se dit que se précipiter dans l'innominé, c'est récupérer, ou plus exactement, c'est tenter de gagner une toute-puissance qui n'est jamais accordée à l'humain, jamais, c'est pure illusion, cela peut être une vision nouvelle qui ne me paraît pas moi sans intérêt, pas sans importance, car toute illusion, toute illusive soit-elle, évoque à mon avis une possible, et illusoire encore une fois, une possible quête d'énergie. Et on peut regarder cela sous un angle positif, et pas forcément, comme on l'a appris, sous l'angle des symptômes négatifs de la schizophrénie. J'aurais tendance à dire que là, il y a peut-être une petite cheville à poser pour placer à côté, à moins de pouvoir l'articuler, l'idée de thérapie passant par le groupe, passant par la médiation d'autrui. C'est-à-dire que si je suis dans le domaine totalement imaginaire, totalement illusoire de la toute-puissance qui constitue essentiellement ma recherche d'un enfer perdu dans lequel je trouverai les seuls éléments de dynamisme, les seuls éléments énergétiques soi-disant devant être conquis, je ne pense pas qu'on puisse beaucoup espérer de ce qui se passera dans une tentative de relation de personne à personne. Alors que, s'il se peut que je sois néanmoins, de par mon corps, de par ma densité, de par mon être, de par ma biographie, ma chronologie, ma date de naissance qui fait qu'en ce moment j'ai 45 ans ou 27, dans un groupe humain et que ça, j'ai beau déchirer mes papiers, c'est quand même comme ça que ça se passe, et que j'ai les cheveux bruns ou je suis chauve, donc tout ça, cette personne physique, animée, douée de vie, ma place dans le groupe humain, que je sois folle ou pas folle, c'est aussi incontournable, aussi inéluctable que peut l'être ce qu'on appelle une réalité.
La survivance.
Et cela m'intéresse du point de vue de la survivance, de la survie. Je dis survivance, mais pas dans le sens habituel, dans un sens incoatif. Même si je l'applique à un substantif et non à un verbe, dans le sens d'exercer la survie. Ça me place dans une position d'exercice que j'assume comme schizophrène tant que je ne suis pas morte ou substitut de morte. C'est-à-dire tuée, auto-trucidée, pour ne pas dire suicidée. Parce que ce n'est pas forcément un suicide, comme chacun sait. Bon, je suis morte, ou je suis on ne peut plus catatonique. Je suis donc, au maximum, retirée du monde de la végétation. Je suis en végétation assourdie. En végétation minimale. Ça va très loin. Jusque dans mon métabolisme basal, ou tout ce que vous voudrez, le témoignage biologique que je suis vraiment en veilleuse, c'est-à-dire que cet état doit me rapprocher le plus possible de la mort biologique. Bon, si je ne suis pas là-dedans, ou même tant que je ne suis pas précipitée dans la mort par la trucidation, je suis dans le groupe humain, exerçant la survie, pratiquant la survivance, au sens un peu néologique que je lui donne pour l'instant. Mais il faut laisser tomber cette utilisation inusitée. Je crois que c'est une chose que nous ne travaillons jamais assez avec les schizophrènes. C'est ce qui nous est offert par eux comme réalité en tant que personne corporéisée et située dans le groupe humain. Tant que nous ne prenons pas en compte ce travail d'être en groupe dans une relation interpersonnelle, nous sommes négligents, méprisants, dédaigneux. À tout ce qui est petite chose modeste aura des pâquerettes. Toutes ces choses dont j'ai parlé si souvent, avec si peu de succès. Or, c'est là, c'est seulement là qu'on peut, je ne dis pas espérer, mais hasarder, que fonctionne une vie avec une communication, une transmissibilité à fort potentiel, à indice élevé, transversal. Ces choses-là peuvent se relier à la transversalité conçue par Félix Guattari. On peut y réfléchir à partir de ce que je viens de dire concernant les schizophrènes. C'est donc là qu'il s'agit de fonctionner ensemble, par exemple avec les grilles de présence et d'absence dans la vie communautaire. Ce qui y est marqué de la circulation de chacun, dont on va pouvoir après parler, y compris du fait que tel schizophrène soit particulièrement perdu, soit particulièrement opposant, pour utiliser un vocabulaire sémiologique clinicoïde classique, n'aura pas satisfait à la règle. On pourra parler de lui en disant qu'il ne l'a pas fait. Et chaque fois qu'on parlera de lui, on le fera passer du domaine de la survivance dans celui du langage. Donc, dans celui de la limitation de la toute-puissance, de la non-toute-puissance. C'est une pratique extrêmement précieuse. J'en parle de cette façon-là, mais cela a été dit et fort bien dit par des gens comme Jean Houry en référence à la théorie freudienne. Moi, je le présente autrement, ce qui ne veut pas dire que ce soit plus riche. Et puis d'autre part, en aucun cas, ça ne m'enlève de la tête la théorie freudienne. C'est une vision autre. Je crois qu'il y a quelque chose de scandaleux de réclamer des gens qui sont censés vivre banalement, mieux vaut dire banalement que normalement, scandaleux, dans le sens étymologique de scandale, qui est l'obstacle à contourner, à leur demander de s'intéresser à l'exercice de survie. Car c'est par définition l'exercice le plus automatique et le plus inconscient, dont ils soient à la fois objet et sujet. Ils n'en perçoivent l'existence, sans pour autant s'en faire une idée, que par des accidents de santé, par exemple, par la douleur, par le fait d'avoir mal à l'estomac, d'avoir tordu le pied, car à ce moment-là, on sait que d'ordinaire, tout cela est silencieux. C'est une façon partielle d'ailleurs, car l'exercice de survie ne peut pas se confondre avec la santé. De saisir, de percevoir ce qui, de nous, pratique en permanence l'exercice de survie. L'accident de santé nous concerne personnellement, ça va toucher notre subjectivité. Tandis qu'essayer de s'intéresser à la fonction de survie la plus accessible pour nous de la part des schizophrènes, en consentant à nous intéresser à ce qui d'habitude ne nous intéresse pas, à ce qui de nous et des autres d'ordinaire ne nous intéresse pas, et à penser que c'est avec ça qu'il convient de faire commerce, c'est quelque chose de scandaleux. C'est ce que vous traduisez par « ça révolte mon orgueilleuse nature ». Au lieu de considérer cela comme une réalité entraînant une exigence, on va immédiatement l'interpréter intellectuellement, comme un moins-être, comme un pis-aller, comme, je ne dirais pas une régression, puisqu'il faudrait savoir sur quelle définition du mot on va se mettre d'accord, comme une rétrogradation. Est-ce que ce dont je parle est perceptible dans les entretiens qui se tiennent dans la pratique que vous avez les uns et les autres au quotidien ?
Honnêtement, pas souvent. Nous sommes trop pris par les préoccupations utilitaires et les actes pragmatiques quotidiens.
Moi, je crois que les deux domaines et les deux chemins ne sont pas du tout incompatibles. Vous savez d'ailleurs que je crois cela. On peut aussi se dire que faire de cela ? Le chemin utilitaire, on peut aussi le pratiquer, mais en n'oubliant pas celui dont je viens de parler, en ne l'escamotant pas. Je crois qu'on l'escamote beaucoup trop, celui-là. Ça exige, entre autres choses, qu'on puisse faire le vide dans sa tête. C'est un autre concept que celui de la neutralité bienveillante. C'est faire un certain vide dans sa tête. Ce vide, justement, s'il est vide, et pour qu'il reste vide, il ne faut pas y précipiter l'utilitaire. Si on n'a pas réalisé comme une base de travail, comme une planche à pétrir permanente la trame de survie, c'est fatal qu'il se passe des choses comme ça où l'utilitaire prend le dessus. La trame de survie, elle devrait être tout le temps en question, tout le temps retravaillée, car c'est ce qu'on peut mettre en commun avec les malades. Quand nous avions commencé ces entretiens, vous m'aviez demandé de vous parler de mes frustrations, de ce qui avait été laissé de côté par d'autres interviews que j'avais accordées. Vous aviez, semble-t-il, l'espoir de faire se manifester des sujets qui me tenaient à cœur. Et moi, je m'étais exclamée intérieurement, et j'avais noté des trucs comme la mystique, la poésie, la recherche de l'essentiel, de l'indicible, le dépouillement, la politique au sens fondamental du terme, qui touche à la cité. Et dans les séances suivantes, c'est vers la psychiatrie et les psychotiques que vous avez orienté vos questions. Pourtant, en citant tout cela, je n'ai pas tellement le sentiment de m'éloigner à coup sûr de la psychiatrie. Je crois qu'on a essayé de s'approcher d'une chose qui me tient à cœur. C'est justement ce qu'il y a de commun entre les malades et ceux qui sont censés ne l'être point, qui sont censés les soigner et les aimer.
Soigner par la conversation.
Une chose aussi m'a intéressée. Quand vous m'avez dit que, dans l'interlocution avec les autres soignants, je partais de l'écart qui existait entre mon interlocuteur et moi pour cultiver cette dissonance, pour que cet interlocuteur fasse autant de chemin que moi dans la discussion. Il peut être intéressant de mettre cela en rapport avec nos dialogues avec les schizophrènes, de discuter de l'importance de la clarté, de la simplicité, de la rigueur, de la simplification aussi. Ce qui fait apparaître que tous ces soucis-là sont des soucis de didactique, et ça me tient toujours, cette espèce de position didactique. D'habitude, on ne se pose pas la question, on est des gens du métier. On a appris nos métiers, respectivement dans la psychiatrie, la psychanalyse, les séminaires. Et il est bien entendu qu'on accorde une espèce d'a priori au contenu et à la manœuvre, à la navigation de l'entretien entre le malade et nous, un a priori de spécificité qui devrait nous dispenser de comparer cela à ce procédé auquel vous faisiez référence avec les soignants, d'exploitation de la dissonance, de l'écart. Au fond, ça simplifie bien les choses de ne pas se poser la question. Parce que si on la pose, ça remet complètement en cause notre technicité, sa raison d'être et sa crédibilité. Ce qui est beaucoup tout de même. Il doit y avoir une veine à creuser qui nous fasse apparaître quelque chose de plus nuancé. Comme le parler banal dont Pierre Bailly-Salin a fait grand cas avec les schizophrènes. Le parler banal, c'est bien, ça fait de l'effet, ça fait du bien. Et le parler convivial de Lucien Bonafé, c'est bien aussi de discuter de la pêche à la dandinette avec un patient. Ça met du liant. Qu'est-ce que j'ai fait avec les schizophrènes profondément atteints que je fréquente depuis des années à ma consultation, me disait Jean-François Buisson, qui est à n'en point douter un psychanalyste et psychiatre expérimenté et qui est capable d'être très rigoureusement technique dans ses propos de psychanalyste. Il disait « Au fond, depuis des années, je me rends compte qu'un certain nombre de schizophrènes que je reçois, ce que je fais avec eux, c'est de la conversation. » Et que cette conversation, ce soit très important, semble-t-il, les schizophrènes, ils tiennent le coup avec cette conversation. Moi, la conversation, j'y crois de plus en plus. Dans cette histoire d'égalité de parole, vous aviez dit quelque chose de fort intéressant sur le préalable avec les gens, et ça m'a fait penser qu'il fallait approfondir cette question du préalable et du partage. Ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Quelquefois, ce qu'on ne dit pas prend techniquement le nom de non-dit. Et là, on est dans cette espèce de frontière du parler avec l'autrui et de parler avec le patient. J'avais un malade schizophrène avec qui les choses allaient comme ça à tout petits pas depuis des années, sans à-coups apparents. Il a eu comme ça 2-3 à-coups. Quand je dis à-coups, il faut le prendre à la lettre. C'est-à-dire qu'il a un jour filé son poing dans la figure de l'interlocuteur à son travail, car il avait eu un petit truc hallucinatoire qui était à l'origine de ce geste vif. Et il s'est vite mis, sur les conseils de l'interlocuteur, en congé maladie. Et il est venu me raconter ça. Mais quand j'ai pris ma retraite, je ne lui ai pas dit. Je me suis demandé si j'avais à lui dire. J'ai trouvé des raisons, je ne sais pas si elles tenaient debout, pour ne pas le dire. Me disant que si ça se présentait... Évidemment, il avait l'âge de songer à la retraite, lui-même. Donc on pouvait trouver cela naturel s'il y a songé. Mais quand même, il était à plusieurs années avant l'âge normal de la retraite. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec un collègue et puis il y avait des nouveautés dans son travail. Même si ce n'était pas l'introduction directe des ordinateurs, c'était en tout cas les conséquences d'une modernisation dont il ne pouvait pas faire les frais.
Non-dit, omission, après coup.
Alors, on peut se contenter de ces trois données et puis dire que c'est bien suffisant pour expliquer que ce malade, juste à l'époque où moi, je venais de prendre ma retraite, est demandé précipitamment aux autorités administratives, sans se soucier des aspects matériels, sans inventorier sa situation, et demander sa retraite. Et je l'ai appris donc par l'intermédiaire de sa mère affolée, car elle-même avait une toute petite retraite, etc. Qu'est-ce que son fils avait fait là? Allait-il être payé? Enfin, il s'était mis là dans une situation délicate, imprudente. Alors, ça m'a fait de l'effet tout de même, ça. Ensuite, il m'a montré combien il était affolé à l'idée de retourner à ce travail. Il avait pris sa retraite car c'était absolument intolérable. Il n'avait pas pris le soin de venir m'en parler auparavant, et ça, c'était nouveau. Alors, je me suis occupée de lui, j'ai fait intervenir une assistante sociale. On est entré dans un processus compliqué pour limiter les dégâts matériels qui pouvaient résulter pour lui de cet acte précipité, pour ne pas dire impulsif. Puis, j'ai discuté avec lui de la retraite. J'ai essayé de le faire parler un peu là-dessus. Il est économe de parole. Il n'en a pas parlé beaucoup. Quand même un petit peu. Suffisamment pour que je puisse lui dire ce que j'avais mis dans ma tête de lui dire en voyant cela. C'est étonnant ce que vous avez fait là. Mais il faut savoir qui a l'âge de la retraite. Ce n'est pas vous, c'est moi qui prends ma retraite. Et il a eu un petit sourire et un mouvement plutôt de soulagement. Il s'est passé là quelque chose de positif, je crois. Après, les choses ont pris un train. Je ne dirais pas facile, car cela ne l'était pas, mais il a fallu faire un chemin durant des mois là-dessus, rattraper des trucs, apprendre que ça n'avait pas marché, qu'il ne touchait pas d'argent, mais qu'il ne me l'avait pas dit, etc. Mais c'est intéressant de voir par où ça passe les choses quand il y a un non-dit. Car là, il y en avait bien un, le fait que je ne lui ai pas dit que je partais à la retraite. Qu'est-ce qui définit qu'une chose est de l'ordre du non-dit ? Vous le savez, vous ?
À première vue, je dirais que c'est l'intention de ne pas la dire. Mais il y a tant de non-dits dont on n'a pas l'intention consciente. Il y a entre ce qui est tout volontairement, ce qui est omis, car on n'est pas sûr de l'utilité de les dire, des sons bien fondés, et parfois la crainte de remuer des choses au mauvais moment. Tout ce qui est omis inconsciemment et qui devient un véritable acte manqué. Des rapports pas simples du tout. Ça participe de l'omission, du secret, de l'oubli. Ces choses-là, on ne les perçoit pas bien. On ne les perçoit qu'après coup.
Ce qui veut dire que nous fonctionnons énormément dans l'après-coup.
Je me suis souvent posé cette question aussi par rapport aux enfants et à la maturité qu'ils pouvaient avoir pour entendre certaines nouvelles et les moments opportuns de leur dire. Il nous arrive de leur révéler des choses sous prétexte des franchises et des vérités de manière tout à fait indiscrète, quand ils ne sont pas en mesure de les supporter, ni de les partager, ni de les élaborer.
C'est dans ces cas-là d'ailleurs qu'on reconnaît le don des grands psychothérapeutes d'enfants. Un type comme Pierre Malle savait dire à un enfant « Alors, tu penses que… » Et puis, c'était le moment de le dire, et l'enfant pouvait dire ce qu'il pensait sur la chose en question. Il sentait qu'on était tout prêt à entendre ça. Vous ne trouvez pas que ce qu'on dit un peu dans toutes les théories, tous les langages des schizophrènes n'encouragent pas du tout à penser que ce mode de transmission puisse avoir quelque chance, ce n'est pas tout à fait le mot, quelque chance d'être utilisable avec eux. Tout ce qu'on peut dire d'eux, insistant sur leur morcellement, sur leur impénétrabilité, sur leur imprévisibilité.
Leur imprévisibilité, moi je dirais plutôt le contraire. Ils ne sont que trop prévisibles.
Oui, mais ça va avec, s'ils sont prévisibles. Rien n'est plus imprévisible que le moment où il nous apparaît qu'ils ont mis en brèche la prévisibilité que nous leur avions prêtée jusqu'à présent.
Chapitre 12. Politique et liberté.
J'aimerais que vous parliez de vos préoccupations actuelles depuis les quelques mois qui vous séparent de votre vie active. Il serait dommage que nous passions à côté de tout cela. Vous vous êtes laissé aller à des idées tout à fait passionnantes qu'on a peu abordées. La politique, la mystique, la poésie. Votre façon de poser les jalons en psychiatrie, de distinguer les différentes interventions et les liens dans la cité me semble éminemment politique. Comment parlez-vous politique ?
La politique, c'est d'abord la liberté. Une des choses qui nous empêche de penser et de parler politique, c'est quelque chose qui tient à notre liberté. Notre liberté de parler ou de ne pas parler. Notre liberté de penser. Il y a des noms qui me viennent en tête quand je me rappelle le passé hospitalier, des gens intéressants, mais qui n'avaient pas leur liberté de penser. Enfin, je ne pense pas que quiconque l'ait vraiment, mais on a le sentiment qu'ils savaient tellement qu'ils devaient penser de telle sorte qu'ils soient conformes à... que la liberté s'arrêtait là. C'est très complexe de parler politique et d'exprimer, d'affirmer, de faire progresser une position politique dans un milieu de soins, un milieu institutionnel, de cheminer avec la liberté. Ce qui est fécond dans la politique, c'est l'exercice de la liberté, En dehors de ça, je ne suis pas sûr que ce soit fécond et efficace, la politique. Or, la politique est là justement pour nous parler toujours des libertés et des limitations des libertés. C'est une tentation permanente de renoncer à ce domaine de la liberté. Dernièrement, lors d'un débat, on m'a dit que je ne m'étais jamais exprimé comme ça. J'étais amené à répondre que si c'était ainsi, c'était peut-être parce que j'étais à la retraite. Si je ne prenais pas position ainsi, alors je n'étais plus rien. C'était pour moi une question de vérité, une question de liberté. Dans l'exercice professionnel, vous êtes abordé, absorbé, vous êtes sans cesse balisé de toutes sortes de façons, vous avez des devoirs que vous ne devez pas négliger, par exemple le devoir de réserve. Je ne veux pas dire qu'une fois que vous en avez fini avec ce type d'exercice, vous n'avez plus aucun devoir de réserve, mais vous pouvez quand même parler d'une autre place. Et si c'était la place d'un être humain ? Il faudrait alors faire vite pour l'occuper et pour s'en servir, parce que c'est quand même essentiel.
Je n'ai jamais eu l'impression que votre pratique psychiatrique et le fait de faire de la politique, comme on la définit là, soit dissociée ou indissociable, ou dissociable. La politique est partie intégrante de la pratique psychiatrique au quotidien dans ses rapports avec le microcosme hospitalier, avec les instances de tutelle, avec le monde extérieur, avec la liberté des malades mentaux, ses relations avec la justice et la police. Et tout ça était très lié dans votre action. C'était d'ordre politique, en lien avec l'éthique.
Je repense à mon ami Jean Haim, qui avait souligné qu'on se voyait, qu'on se parlait autrement, depuis le tout début de ma retraite, que ce n'était pas comme à l'hôpital où on surinvestissait. Il a un vocabulaire très technique. Cela m'avait questionné. Ces choses me reviennent un peu en tête ces temps-ci, mais il y a aussi d'autres expériences que je vis mêlées à ça. Des choses personnelles de vie, la manière dont peuvent se remanier les intérêts, la manière dont ça s'ordonne. Parce que si j'ai déjà échoué, je ne sais combien de temps à mettre de l'ordre dans mon cadre de vie, il n'en reste pas moins que maintenant, ça prend une tournure nouvelle, qui est d'avoir un cadre disponible pour y faire ce qui, à mes yeux, se valorise. Je me suis souvent questionné sur ce que représentaient les conditions de mon engagement dans le travail en équipe, avec une lourde responsabilité, celle qui concerne la liberté et ce qu'on peut en faire. Je crois que lorsqu'on est dans le plein feu du métier, la manière de négocier sa liberté et l'usage de sa liberté pose des problèmes. Mon maître, Henri Hay, a bien dit que la psychiatrie était l'étude des maladies de la liberté. Je ne me rappelle plus la formule exacte. On se dit dans un second temps qu'on a eu soi-même à faire sa propre liberté et à négocier quelque chose avec elle et avec la liberté de ses malades, ainsi qu'avec la liberté des gens avec qui on convivait.
Mémoire et intimidation de l'histoire.
Ces choses-là me sont revenues en force. C'est un retour à mes propres sources. Autant non seulement psychiatriques, mais autant médicales. À l'occasion de ce qui était dit de mes propres sources et de leurs souvenirs par certains de mes collègues. Par exemple, j'ai reçu le livre de Pierre Scherrer, Un hôpital sous l'occupation. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Pas plus que l'extermination douce de Max Lafon, que la Fondation Pie avait édité auparavant. Vous ne connaissez pas la Fondation Pie ? Vous voyez comment certaines choses qui m'étaient familières ou qui avaient de l'intérêt pour moi n'étaient connues de personne, de ceux qui travaillaient avec moi. Même quelquefois les plus proches, même de vous, alors qu'ils n'étaient pas plus proches que vous. Tous ces mouvements, tous ces courants ont permis des initiatives ou des expériences importantes qui ont défrayé la chronique psychiatrique ou politique depuis déjà plusieurs années. Elles ont été le théâtre d'histoires quelquefois tragiques ou tragicomiques, de choses qui étaient fondées et qui prétendaient être d'avant-garde et qui tout à coup s'éteignaient. Ces mouvements sont propres à réveiller des haines qui ont fait se dresser des psychiatres les uns contre les autres, se tirer dans les pattes plutôt que de profiter de l'expérience que tel ou tel avait entreprise. J'ai déploré qu'on ne les connaisse pas dans mon milieu de travail, puis je me suis reproché qu'on ne les connaisse pas. Alors qu'il me semble, je n'ai vraiment rien fait pour les cacher, et j'ai même dû faire quelque chose pour les faire connaître. La Fondation Pie fut un courant productif et maintenant, elle agonise. Ceux qui en ont été les auteurs se sont fait taper dessus par d'autres. Mais elle va peut-être renaître de ses cendres, en tout cas survivre. Parce que ceux qui en ont été, les promoteurs, ont pris la décision héroïque de démissionner pour laisser la place à des plus jeunes dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils font disparaître les cibles de haine et de discrédit qu'ils constituaient. Ils ont par exemple publié la thèse de doctorat de François Tosqueles, une espèce d'histoire de la folie, qui est un gros volume que je possède. Ils ont aussi publié l'extermination douce de Lafont, qui a fait l'objet de chroniques dans la presse en 1987. J'ai affecté de ne pas me le procurer. Je crois que j'étais agacé par ce que j'entendais de la Fondation Pi. Ils prétendaient faire de la psychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle. Mais on disait qu'ils avaient pris des positions dogmatiques. Je ressentais ce milieu comme un milieu d'aristocratie de la pensée psychiatrique, avec à la fois l'envie d'en être, et puis la crainte de manquer aux pauvres. Vous voyez comment la politique est là, cette fois. J'étais le théâtre de je ne sais combien de combats à l'occasion de cette difficulté, à ne pas savoir quel parti prendre. Ils m'ont plusieurs fois invité, comme ils invitaient Houry ou d'autres grandes têtes, et moi je me disais que je ne ferais jamais assez grande tête dans ce décor. Je me dérobais. Et je ne suis pas allé parce que j'étais dans le courant du travail. J'avais bien du mal à me libérer. C'est comme pour l'effet thérapeutique du médicament. Il y a 60% de vrai là-dedans, mais dans les 40%, il y a tout ce combat dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui suis-je, où suis-je, à quel monde j'appartiens, à quelle conviction, non seulement je souscris, mais sous quel étendard est-ce que je combats. Quand j'ai vu que les fers se croisaient à propos de l'extermination douce, qui avait pour thème essentiel la manière dont les milliers de malades mentaux sont morts après la Seconde Guerre mondiale, morts de faim, et comment c'était censé expliquer que ce n'était pas par hasard que les malades mentaux étaient morts de faim, qu'ils avaient été les victimes désignées par une position idéologique particulière, y compris de les nier, de les ignorer, de les mettre en position de faiblesse, de telle sorte qu'il ne pouvait leur arriver que la famine et la mort. Il y a eu à ce moment-là de nombreux articles qui sont parus dans Le Monde et ailleurs. J'ai fait tout ce que j'ai pu, moi, pour ne pas les connaître, ne pas les lire, les scotomiser en 1987. Puis malgré moi, j'en ai entendu parler par des collègues de ma génération, des psychiatres du syndicat. Ces choses que vous ignorez totalement n'étaient pas inconnues. C'est ce qui me bouleverse là actuellement. L'extermination douce a été publiée avec une superbe préface de Lucien Bonafé et beaucoup de grands coups de clairon. Je vais le lire parce que j'ai ouï dire que Scherer présentait son livre comme une façon de lui répondre. J'avais tout de même réussi à lire un petit article dans Le Monde signé Jean M. qui disait « Que vouliez-vous qu'ils fissent les psychiatres ? Il y avait le préfet. » Un article très admiratif finalement disant « On n'y pouvait rien ». Je m'avais tracassé, je m'étais dit qu'il y avait une disproportion entre ce dont il était question et que je me gardais de vouloir lire et la réponse apparemment dérisoire que faisait un psychiatre du cadre, alors président du syndicat, qui disait « Les malades sont morts, on n'y pouvait rien, on était médecin-chef, on avait les préfets au-dessus de nous, on ne pouvait faire que ce que pouvait faire un médecin-chef, etc. » J'ai connu cette époque et elle m'a bien sûr bouleversé. Je n'étais pas médecin-chef. Je faisais mes études de médecine et non de psychiatrie, mais je me spécialisais en psychiatrie. C'était une période où je ne travaillais pas dans les hôpitaux psychiatriques. Et même, je n'admettais pas que la psychiatrie puisse s'exercer dans des hôpitaux psychiatriques. Les asiles étaient pour moi un lieu de dérédiction, un lieu inconnu, un réservoir à fous dont je n'avais aucune idée. Il me semblait évident que la psychiatrie s'apprenait dans le cadre des hôpitaux généraux avec des professeurs, aussi bien pour la psychiatrie que pour le reste des spécialités. J'étais tout à fait dans un état d'esprit universitaire. Quantité de souvenirs me sont revenus en tête quand il y eut cette position de Haim que j'ai ressentie comme dérisoire et qui m'a gêné. Est-ce vraiment suffisant de répondre de cette façon-là ? Que faire ? Que dire ? Alors j'ai lu le livre de Scherer et je lui ai écrit. Je lui ai dit que c'était un livre de conviction et non d'idéologie. Je lui ai dit que c'était un livre d'homme qui n'a nullement l'intention de tricher et qui a gardé toute sa fidélité à ceux auxquels il fait appel comme aide-mémoire. Il leur a dit « Rappelez-vous ceci, Vous rappelez-vous de cela ? Il nomme des gens, mais ne stigmatise personne. En somme, il a raconté son histoire et il a porté témoignage. Il a montré comment les malades mouraient de faim. Il a montré ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait devant la manière dont ils mouraient de faim. Il a montré aussi qu'à un moment donné, il avait à choisir de faire ou pas du marché noir. Il a dit à l'économe de l'hôpital « il faut faire du marché noir ». Et l'économe, un type très comme ça, dans les règles, lui a répondu du tac au tac « donnez-moi un ordre écrit ». Il ne lui a pas donné d'ordre écrit. Il était jeune médecin chef, jeune médecin directeur. Il était prisonnier de guerre. Mais quand il est revenu de faire de la résistance, il y a eu un deuxième épisode. Il a encore trouvé des gens qui mouraient de faim alors que les Allemands étaient partis. Il a trouvé ça inacceptable et l'a écrit au préfet et lui a dit « Je vous préviens, je vais faire du marché noir ». Ce n'est pas la même position que la première. Le préfet lui a alors répondu « Tenez docteur, prenez cette lettre et il n'en sera plus question ». Il voulait lui rendre la lettre, lui signifier qu'il n'aurait plus d'ennui, que ses malades auraient à manger, mais il ne voulait pas garder cette lettre. Voilà la différence voyez la différence d'engagement. Il rend compte de tout cela dans son livre et je trouve que cette lettre est très importante. L'extermination douce est présentée différemment comme par des gens qui savent. Je ne dis pas qu'ils savent de manière un peu critique ou un peu péjorative, non qu'ils aient un savoir ex cathedra, mais qui savent à cause d'une certaine disposition d'esprit, d'une certaine formation, d'une certaine discipline, par exemple politique ou militante. Il y a quantité de gens très bien d'un point de vue marxiste comme Lucien Bonafé ou du protestantisme comme Georges Lemaison qui ont parlé semble-t-il à temps mais sans être entendus. Des gens qui ont dit « on fait mourir les malades de faim, les malades mentaux sont en train de crever ». Ils l'ont dit, ils l'ont répété bien haut. De temps en temps, ils se sont fait taper sur les doigts. Bonafé a été un moment dans une situation dangereuse pour lui-même. Il a dû se réfugier à Lyon chez un copain qui s'appelait Paul Balvet, bien implanté dans ma région et qui était pétainiste de bonne foi. Il s'est trouvé en face de ce communiste qui mettait le feu aux poudres partout et il s'est dit « mais ce type est épatant ». Ils se sont liés comme ça.
Assister au choc chimique et enlever les lacets de contention.
Alors, les souvenirs me sont revenus de ma propre vie, de mon vécu, de tout cela. Et en particulier des souvenirs de malades mentaux que j'ai vus à l'époque, pendant la guerre, une seule fois à l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève. Parce que j'y accompagnais mon premier maître en médecine, que je respecte infiniment, et qui s'appelle, Pelet, Georges Arnaud. Il était cardiologue, féru de neurologie et de psychiatrie, et chef de service de pneumologie, enfin une lumière de la ville qui avait été appelée à Saint-Égrève, parce qu'on y faisait à ce moment-là des chocs au cardiazole. Et qu'il fallait vérifier l'état cardiaque des malades avec son petit appareil d'électrocardiogramme portatif de l'époque. Il m'avait dit de venir voir ces malades qui m'intéresseraient. J'étais interne chez lui, il m'a emmené chez lui, j'ai vu des malades et je les revois maintenant. À ce moment-là, j'ai vécu comme dans un rêve. Je revois encore une tête complètement rasée, un visage émacié et plusieurs malades comme ça, au lit, la boule à zéro, faisait un ECG, puis un choc au cardiazole. Il y en a deux qui ont réussi, un qui a loupé, et on a été les spectateurs de cette angoisse. Une angoisse indicible, indescriptible, horrible, absolument horrible. Il faut l'avoir vu pour savoir ce qu'est une angoisse horrible consécutive à la piqûre. Quand la crise épileptique ne survient pas. Quelquefois, on ne savait pas pourquoi elle ne survenait pas. Question de dose, question d'injection. Tout cela a été fait de manière complètement empirique. J'ai vu ces gens, je me rappelle comme si c'était hier que pour moi, à la fois, j'ai vécu ça comme un rêve, ou plutôt, j'ai vécu ça comme si j'avais été un appareil photographique. Je suis à Saint-Agrève. Crac. Il s'est tiré dans ma tête un cliché de fou à l'asile. Puis là-dessus s'est joué la dramatique familière d'un acte scientifique ou assimilé à un acte scientifique organisé par un patron en qui on a confiance et par ses confrères qui sont là et qui discutent avec lui. Ils ont dû échanger quelques mots, puis le CG et crac. On envoie le truc et puis c'est tout. Est-ce qu'on a parlé de cela ensuite avec lui? Je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'on a mis sur le tapis le fait que ces gens étaient affamés? À mon avis, pas. Je pense pas. À Saint-Égrève, on était en zone libre. mais les gens sont morts en quantité, c'est connu, claqués de faim. Moi, je travaillais au Sana. Nos malades avaient droit à des suppléments alimentaires. Alors, quand ils étaient émaciés, ils ne faisaient pas d'œdème de carence, c'était à cause de la tuberculose. Je vivais donc autre chose avec eux. C'est un exemple frappant, parce que quand on n'est pas en guerre, tous les jours, sauf au Liban, bien sûr, mais finalement, le drame de la vie, il n'en est pas besoin de guerre pour qu'il existe. Actuellement, tout cela remue dans ma tête et je me dis... Par où passe le plan de la lucidité lorsqu'on est engagé dans un itinéraire et un processus de soins? Quel est le regard que nous posons sur les malades dont nous nous occupons? C'est une question qui s'est souvent posée pour moi, pour tel ou tel individu. Par exemple, chaque fois qu'on a eu un individu sous contention ou camisolé, alors que moi, je pensais bien que jamais de ma vie, je n'autoriserais une chose pareille. Parce que j'avais vu Paul Civadon l'interdire et pour moi, ça n'est jamais passé. Je n'ai jamais été à l'aise avec cela. Ce n'était pas possible. J'ai toujours eu à négocier des choses innégociable en disant « c'est un personnel féminin, c'est ceci, c'est cela, on n'en sortait pas ». Quand j'étais interne chez Civadon, j'ai décamisolé moi-même un malade qui s'était fait camisoler. C'est lui qui avait obligé les infirmières à la camisoler, à le camisoler. Les infirmiers sont venus me le dire à l'internat dans ma chambre, on a camisolé monsieur machin parce qu'il l'a voulu. Je me suis dit que ce n'était pas acceptable, je suis allé le décamisoler. Mais à l'époque, le Lagartyl n'existait pas, aucun neuroleptique n'existait. On lui donnait un comprimé de Gardénal, et encore en 10 fois, en dose filée, enfin pratiquement rien, quoi. Et puis les paroles, et puis petit à petit, j'ai enlevé les lacets les uns après les autres, et j'étais seul avec lui. J'ai pensé que je ne pouvais faire cela que seul avec lui. Il était complètement délirant, persécuté, il pensait que l'œil de Moscou le regardait d'un côté, et l'œil de je ne sais pas quoi de l'autre côté. Enfin, c'était effroyable. Et quand je suis sorti de la chambre, j'ai vu une brochette d'infirmiers qui étaient tous au garde-à-vous et contre un mur, parce qu'ils ne disaient que c'était très gentil que je sois seul avec ce malade, mais qu'est-ce qui allait se passer? Alors ils avaient obéi, mais en même temps ils surveillaient pour savoir si, par hasard, il n'y aurait pas un coup de chien pour être là.
La liberté me démuselle.
Nous sommes détenteurs de tout cela. Je suis préoccupé par tout cela. Par où passe le plan de la lucidité, les interrogations de Pierre Scherrer après coup là-dessus. À mon avis, elles sont formulées là avec simplicité, honnêteté et un courage dont on ne peut que lui rendre hommage. Alors, l'extermination douce a l'air d'être un beau livre, terrible, mais c'est quand même un beau livre, écrit par des gens qui ont pris une position militante et soutenu par une compétence élaborée. C'est aussi ce qu'on essayait de faire au GTPSI, élaborer quelque chose sans quoi on ne peut pas travailler. Je pense qu'il n'est pas question de ne pas avoir un lieu topologique, mais aussi un lieu de référence à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce qu'on sent, pour lequel on puisse à tout moment se dire « qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ?» puis se répondre « quelque chose ». Et cela, je ne dirais pas que je me le reproche tout le temps, mais quelquefois je regrette beaucoup que cela n'ait pas été pratiqué dans le milieu où j'étais, en tout cas comme je pensais, où je voyais que ça pourrait ou ça devait se pratiquer. C'est cela ce que je me dis, que je me suis toujours dit et pas seulement depuis 2 ans. Je suis libre maintenant. La liberté maintenant, elle me démuselle, alors qu'il y a quelques mois, elle me faisait peur. Je me demandais ce que j'allais en faire, ce qui allait m'arriver. Du même coup, je me suis réfugié dans mes problèmes personnels, familiaux, une façon de rentrer dans une coquille, une façon de régresser pendant qu'on est en train de se débrouiller avec sa mère, avec les mémoires de son père. Pendant qu'on fait cela, le reste est, je vais dire un mot consolant, le reste est en jachère. Le terrain se repose et quand il sera reposé, on pourra le cultiver de nouveau. Est-ce qu'il y a un terrain en jachère depuis 18 mois? C'est possible. Ce qui fait vivre, c'est l'absence de chronologie. Je fais la référence à l'inconscient, à la psychanalyse. Mais pas seulement. On conteste aujourd'hui le défilé chronologique lorsqu'il est pris pour la vérité, pour la fidélité hystérique. Non, qu'un défilé chronologique ne doive pas être véridique, fidélité historique. Non, qu'un défilé chronologique ne doive pas être véridique, observé judicieusement avec rigueur bien sûr, mais est-ce que ça donne la vérité de l'histoire? Non.
La psychothérapie institutionnelle, une vision globale.
Comment s'approche-t-on de l'histoire ?
Il y a des circonstances, des carrefours, des émotions, des rencontres, des saisies d'après-coup, des effondrements de pans. C'est très important, ça, ce qui s'est démoli. On s'aperçoit que tout cela dégage le point de vue.
Comme ces tableaux, peints et repeints par le même peintre ?
C'est cela. Nicolas Ionesco, artiste peintre qui travailla longtemps à l'élan retrouvé avec des malades, vient de nous dire au revoir à l'Institut de la Rochefoucauld. Parce qu'il va se consacrer uniquement à son art maintenant. Il m'a montré comment il faisait ses tableaux, comment il peint et comment il repeint. La manière dont il assiste à l'évolution d'un personnage, de son tableau, est aussi fascinante et incompréhensible. Peut-être pire encore que la manière dont les écrivains voient filer un personnage de leur roman, hors de leur plume, stupéfaits de voir que c'est comme ça et pas autrement et qu'ils sont obligés de se conformer à ce personnage qui est en train de naître. Il m'a montré un personnage qu'il aimait particulièrement, un personnage superbe, très grand, lumineux, aussi admirable par la forme que par la couleur. Il a souffert. De le défaire pour le faire autrement. Il y était contraint parce que ce personnage-là ne pouvait pas coller avec le reste du tableau. Il devait prendre une autre place que celle-là. Alors il a dû sacrifier cet être de splendeur pour en faire un être plus réduit. Très beau aussi, mais un peu moins éclatant, plus petit, et qui n'écrabouille pas la lumière et l'équilibre de l'ensemble. Moi, je pense que le fonctionnement dit de psychothérapie institutionnelle, cette problématique-là est toujours présente. Si on n'a pas cela dans le sang, on ne peut pas faire de psychothérapie institutionnelle. Il peut se présenter tout à coup une belle réalisation, esthétiquement satisfaisante, affectivement gratifiante, comblante, admirable, etc. Mais comment cela se situe par rapport à l'ensemble ? Si on n'est pas capable de faire ce genre de constat, d'entretenir ce genre de débat, on est à côté du problème de la psychothérapie institutionnelle. Cela n'a absolument rien à voir avec ce qui est dit de manière critique, grossière, à propos des psychothérapies institutionnelles, quand on dit qu'on fait tout par le groupe et pour le groupe, qu'on fait le sacrifice de l'individu, qu'on ne soit une personne individuellement. Si on dit cela, on n'a rien compris à la psychothérapie institutionnelle.
Lettre à l'éditeur. Paris, le 8 février 1990. Monsieur, quand j'entends dire, et qui plus est du côté de votre maison d'édition, que la psychiatrie se vend ou se vendrait moins bien, dois-je me réjouir et proclamer « Ça tombe bien, j'ai 70 ans et dans toute ma carrière de service public, on ne m'a jamais acheté. » Mieux vaut essayer de dire ce qui m'amène. La pratique psychiatrique se nourrit de la vie socialement incarnée. Elle s'enseigne en même temps, se forme et se déforme en son cours, ce qui, à mon avis, justifie l'importance et la nécessité de la tradition orale. Quand même on diagnostique des maladies, ce sont des êtres que l'on soigne. Et la façon dont on dit ce qu'on fait, dont on parle ce qu'on pense, et à mesure qu'on le pense, révèle ce qui s'engage. Sépare celui qui parle de ceux qui l'écoutent ou l'entendent. Et ce faisant, crée l'espace de la place qu'il occupe. Ce travail, à mesure, est formateur pour ceux qui le font ensemble, et ce qui peut ensuite fournir ou raviver le souvenir de l'expérience vécue devient pour chacun un matériau qu'il s'approprie et dont la destinée ne peut à l'avance être prévue. C'est la vie. Si vous entendiez nos cassettes, vous ne pourriez douter du caractère vivant de ce qu'elles rendent sonore. Et cela malgré le manque important de compléments, tels la gestuelle. Mais voilà, ce n'est que l'écrit de l'oral qui est là. Est-il supportable et passable ? Peut-il avoir le moindre intérêt pour quiconque n'a pas travaillé dans le creuset d'où l'on sort cette gangue quand elle se présente encore comme un embarras, un poids ? Une matière risquant toujours d'être avant tout rebutante. Josette Puel, qui sait admirablement s'y prendre avec moi, m'a posé des questions qui témoignaient des interrogations fondamentales dont l'évitement permanent ne pourrait qu'abâtardir la psychiatrie et sa pratique et entretenir les écrans d'incompréhension qui s'élèvent. Entre pouvoir public et praticien, entre médias et public, etc. Ces questions m'ont plus d'une fois trouvé démunie de réponse, acculée à laisser voir mon ignorance, toutes mes incapacités. Voilà des obstacles, l'ignorance, les incapacités auxquelles on ne remédie ni avec de l'argent, ni avec du rendement, ni avec de l'informatique. La découverte de ces insuffisances peut faire peur au point de les substituer sans délai un savoir académique. Mais il arrive, en des cas plus favorables, qu'elles soient incitatives. Qu'avoir séché, que l'on croyait ou voulait savant, on s'aperçoive que ce qui n'est à personne, puisque savoir défaillant est promesse pour tout le monde, ouvrant la voie à de nouvelles réflexions, démasquant des orientations qu'il faudra soit préciser, soit condamner sans complaisance et sans retard. Voilà, monsieur, un peu de ce qui fait que tout au long de ma carrière et de ma vie, je n'ai pas considéré le verba volante comme vraiment plus léger que le scripta manante. Mais vouloir, après de si longues résistances, essayer de faire passer le premier dans le second, voire pour le second, pourrait bien être une illusion. À cette crainte de céder à l'illusion, j'oppose l'espoir que me donne l'édition. En effet, par d'autres, amis, élèves, beaucoup plus imprimés que moi, je n'ignore pas tout à fait les exigences de cette dame. Je sais qu'elle aime à parler d'argent, de pronostics de tirage, puis de mise en page, et de place, et de collection, et de délai, et qu'alors elle tranche. Ou parfois, plus coopérante, à moins que, trop pressée, commande de trancher. Voilà qui, joint à mes insuffisances, ne nous sort pas des réalités. Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien nous réserver et suis à votre disposition si l'écrit de l'oral vous touche. Hélène Chéniaud.